La Bible pas à pas, une émission proposée et présentée par Jocelyne et Étienne Tarnot.
Bonjour Jocelyne.
Bonjour Étienne.
Alors, tu souhaitais nous présenter un nouveau livre, on pourrait dire, que tu as écrit, qui est paru aux éditions Salvatore et qui s'appelle « Les couples phares de la Bible ». Donc évidemment, j'imagine que tu vas nous présenter ces couples, peut-être de l'Ancien Testament. Nous t'écoutons.
Oui, écoute, je voudrais d'abord faire un petit préalable à tout ça. L'idée est venue à la suite d'une expérience. Un jour, j'attendais l'un de mes nombreux petits-enfants, comme tu sais, à la sortie des classes, et j'ai surpris le dialogue assez étonnant d'une autre grand-mère avec sa petite-fille. Alors la fillette, une gamine qui devait être en CM1, quelque chose comme ça, elle venait juste de franchir le portail de l'école et elle chahutait joyeusement avec un de ses camarades. Alors la grand-mère, quand elle s'est approchée, et tout en lui tendant son pain au chocolat, lui a dit « Alors, c'est ton amoureux ?» sur le ton de la confidence. Et la fillette a répondu « Oui, mamie, avec une pointe de regret tout de même, parce que on n'est pas encore en couple. » Alors je suis restée un peu interloquée. Je me dis, mais qu'est-ce qu'elle veut dire exactement? Je voyais qu'elle voulait dire quelque chose, mais la notion lui semblait aller de soi, comme si elle avait été respirée dans l'air du temps à partir des conversations des adultes. Elle disait, c'est ce qui m'a surprise, elle disait en couple et non plus un couple comme autrefois. Je vais dire, avant que mai 68 ait jeté les pavés aux flics et pour mettre à nu le sable mouvant des désirs et des jouissances individuelles frappées du sceau de l'éphémère.
Alors oui, ton histoire, en fait, elle me fait aussi penser à un midrash, tu vois, chacun ses références.
Oui.
Moi, elles sont plus bibliques et hébraïques. Alors, et qui traite un peu de la même question du couple et qui dit la chose suivante. Donc, 2000 ans plus tôt, vivant en Palestine, une riche et noble romaine interroge un disciple du très fameux Rabbi Akiva, mort martyr, brûlé vif d'ailleurs par les Romains, lesquels interdisaient alors la circoncision et le prosélytisme, le judaïsme faisant trop d'émules, même parmi les fils des Romains, parmi les fils de la Louve.
Alors, l'idée développée était celle-ci. La matrone s'approche donc de ce rabbi et lui dit « Si Dieu a créé le monde en 6 jours, comme vous le dites, vous, les Juifs, et s'est reposé le 7e, ironisait-elle, eh bien depuis, que fait-il? Il se tourne les pouces ?» Placide, le rabbi répondit « Ah non, pas du tout, il assemble les couples. Oh, tout ce temps pour si peu, rétorqua la matrone. Mais moi, en une petite heure, je peux marier mes 1000 esclaves et former ainsi 500 couples d'un coup. » Et la nuit même, elle le fit. Cependant, à l'aube du jour suivant, ce n'était que cris, pleurs, gémissements et violentes empoignades. Et à la vue de ce désastre, elle se rendit chez le rabbi pour confesser, avouer qu'elle s'était un peu trompée. Et elle ajouta « Votre Torah est pleine de vérité, utile et même estimable pour se comporter comme il convient. » À quoi le sage répondit « Vous savez, former un couple pour le saint, béni soit-il, c'est aussi difficile que de séparer. Non, c'est plus difficile que de séparer la mer des joncs. »
Alors, la mer des joncs, évidemment, c'est l'évocation de la sortie d'Égypte pour le peuple d'Israël, qu'on évoque par Yetzat Misraïm, lorsque le Seigneur, afin de sauver son peuple coincé entre la mer infranchissable et les 600 chars de Pharaon lancés à sa poursuite, avait ordonné à Moïse de frapper les eaux afin qu'elles se séparent en deux murailles, une à gauche, l'autre à droite, leur permettant de passer à pied sec. Donc, ils prétendirent que former un couple, c'est plus difficile que d'ouvrir la mer pour laisser passer le peuple d'Israël. De même que parler de séparer, c'est quand même étonnant quand il s'agit d'unir un couple.
Ben oui, c'est
Est-ce
vrai.
Que c'est pas un paradoxe absolu comme évocation?
Oui, c'est juste. Et pour ça, j'aime bien le livre « L'autre, c'est infini » qui a été récemment écrit par une rabbine, Pauline Bebb, en collaboration avec la psychiatre Catherine Ben Saïd, qui est aussi psychanalyste et qui effectivement s'est employée à résoudre cet oxymore, j'allais dire, pour le moins insolite. Et alors, encore une fois, c'est l'hébreu qui nous y aide. Le terme employé pour évoquer la séparation des eaux de la mer des joncs, c'est le mot kara, qui signifie déchirer, ouvrir, percer, à la manière dont on déchire irrémédiablement un tissu. C'est également le terme dont Yahvé se sert, par exemple, à 3 reprises pour avertir Salomon, qui s'est adonné à l'idolâtrie, qu'il va déchirer, qu'il va arracher le royaume de la main de son fils Roboam, en ne lui laissant que 2 tribus pour céder les 10 à son rival Jéroboam. Voilà le sens.
Donc, toujours dans cette évocation de la séparation, on voit bien donc l'image des 2 murailles d'eau qui sont figées face à face, libérant un espace assez vaste pour pouvoir y passer à pied sec. Et cette image peut même faire penser au moment où Dieu décide, lors de la création de l'univers, de mettre fin au chaos, au tohu-bohu en hébreu. Et dans ce même moment, il avait séparé successivement la lumière des ténèbres, la terre de la mer, oui, le jour de la nuit, les végétaux, puis les animaux, chacun selon son espèce, afin que surgisse la première création. Ainsi doit-il en être pour la seconde, celle du premier couple que nous évoquons à présent.
Exactement, parce que, en fait, en créant Ève à partir d'une côte séparée d'Adam, c'est ce mot qui est employé, pour en faire son aide en face, Ezer Kenegdo en hébreu, eh bien la femme, Isha, tirée de l'homme, Ish, hein, c'est Adam qui dit ça, oh là là, c'est Isha tirée de Ish, jouissant tous les deux d'une parfaite égalité, mais toutefois, pour qu'ils parviennent à devenir un couple, Dieu va ajouter la chose suivante. C'est pourquoi l'homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme et ils deviennent une seule chair. Donc, pour devenir une seule chair, un couple, il faut quitter quelque chose, se séparer pour s'affranchir des pesanteurs antérieures, afin de devenir un être nouveau. Le couple, zoug en hébreu, c'est un joli mot drôle d'ailleurs, deux en une seule chair. J'allais dire, tel est le mystère du couple, à défaut de quoi, eh bien, il va se fracasser sur l'écueil de la passion-fusion, où l'un et l'autre vont se consumer jusqu'à n'être plus que cendre.
Donc, j'allais dire, dans cet avant-propos par rapport au couple, ouais, tu développes cette idée que pour unir, pour permettre le couple, il faut dès le début imaginer la séparation, instituer une distance nécessaire pour pouvoir se regarder. Savoir que l'autre n'est pas moi-même, pouvoir
c'est pas
se parler, pouvoir s'écouter, et c'est d'ailleurs tout le sens du mot alliance, brit, en hébreu, dont la racine aussi signifie rompre et non pas lier. Intéressant de se dire qu'une alliance qui consiste à lier, étymologiquement, c'est non pas le lien, mais c'est la rupture.
Oui.
D'ailleurs, on retrouve cette même idée dans le mot, le contrat, la ketouba, le contrat de mariage, que l'époux remet à l'épouse lors de la célébration du mariage à la synagogue, qui s'assimile à l'engagement pris entre 2 personnes pour s'assurer de la parole donnée comme une trace matérielle.
Bien sûr.
Et d'ailleurs, on trouve cette présence de la Ketouba, tu t'en souviens, dans le livre de Tobie, lorsque le vieux père, Tobeit, décide d'envoyer son fils rechercher les 10 talents d'argent qu'il a mis en dépôt 20 ans plus tôt chez son ami le banquier Gabel. Et alors, ils ont donc une conversation, le père et le fils, que tu nous présentes.
Eh bien oui, parce que Tobie, qui est très très réticent, parce qu'il risque sa vie, hein, sur les chemins avec de l'argent, tout ça, se faire tomber dans un guet-apens, et il dit, mais comment me faire reconnaître? Il ne me connaît pas, comment il pourrait me donner l'argent dont tu parles? Et Tobeit répond à son fils, nous avons échangé nos signatures sur un billet. Je l'ai coupé en 2 pour que nous en ayons chacun la moitié. Tiens, voilà ma moitié, et il donne ce morceau de papier à son fils. Si les deux morceaux s'emboîtent parfaitement, il est évident que Gabaël, le banquier, aura la preuve que Toby est bien le fils de son ami et non un imposteur. Dans la plupart des transactions, d'ailleurs, plutôt qu'un papier assez fragile, on brisait en deux un bout de bois ou un tesson de céramique qu'on appelle cymbalein en grec et qui a donné pour nous symbole en français, le symbole des apôtres qui vient de là. En fait, qu'est-ce que ça veut dire ? Récite-moi ton credo et nous verrons s'il s'emboîte avec celui que professe la foi catholique. Ou bien au contraire, s'il est hérétique. Ainsi, la brite, l'alliance, repose sur ce principe, rompre pour unir, pour voir si ça s'emboîte.
Et j'allais dire, pour terminer cet avant-propos, revenons au Midrash, à la première des histoires qui s'emboîtaient les unes dans les autres. cette première des histoires, celle de la matrone, tu sais, avec le rabbin, qui lui disait que la chose la plus difficile et que l'occupation de Dieu dorénavant depuis la création du monde, c'était de créer les couples. Eh bien, ce petit Midrash de la matrone et du rabbin, ça souligne une chose, que si la séparation de la mère des gens est un miracle d'exception, la rencontre d'un couple est tout aussi miraculeuse. Et non pas, en hébreu, c'est même pas miraculeuse, c'est racha, ça veut dire est tout aussi ardu,
oui,
en hébreu. Pourquoi ? Car le choix du Très-Haut, de Dieu, d'unir deux destins est à chaque instant soumis à la liberté des deux témoins, c'est-à-dire de l'un et de l'autre des élus du couple, et que rien n'oblige à garder vivace la flamme divine que Dieu leur a confiée.
Oui, et je dirais qu'ainsi en est-il des huit couples que nous allons égrener, évoquer. Tous, d'ailleurs, ont honoré à leur façon la responsabilité d'être ensemble l'image de Dieu, Tselem Elohim, témoin de la révélation, témoin du fait que le Créateur nous a créés, relais fidèles de la lumière du Messie. Cette descendance promise à Ève afin d'écraser la tête du serpent qui a mis en échec le plan de Dieu, lequel, évidemment, a ruiné en même temps l'unité du premier couple, instaurant entre eux la honte, là où, au contraire, resplendissait l'innocente nudité de la rencontre.
Dis oui, ô Marie, et l'alliance rompue. Jardin refleurira en Jésus mieux qu'avant. Dis oui, ô Marie, pour que ton fils écrase la tête du serpent. Et sois vainqueur par son sang. À la croisée du temps et de l'espace, Marie, comblée de grâce, de tes lèvres j'attends le oui du fiat qui fera de toi la mère.
Alors, parmi cette saga des couples, commençons par le premier Adam et Ève. Tout avait si bien commencé, Dieu avait pris soin de créer pour sa plus belle créature un écrin incomparable, le jardin d'Éden, littéralement le jardin des délices, Gan Eden en hébreu. Donc le sixième jour, alors que la création était en voie d'achèvement, Dieu s'arrête et il se consulte. Faisons l'homme à notre image comme notre ressemblance. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Homme et femme, il les créa.
Alors tu as peut-être noté que auparavant, dans les six jours, Dieu a créé en dix paroles tout l'univers entier. Or voilà que l'Éternel s'octroie une espèce de pause et il fait davantage, il se consulte, donc il se parle à lui-même, peut-être. Il dit « faisons l'homme ». Mais moi, je dirais, avec qui le Père pouvait-il parler ? Pouvait-il s'entretenir, sinon avec le Fils et l'Esprit-Saint ? Et si la décision fait débat au cœur de la Trinité, c'est qu'elle comporte un risque majeur. Jusqu'ici, toute la création obéit au Créateur. Mais en décidant de faire l'homme à son image et ressemblance, la Trinité lui donne une mission qui est l'amour et un viatique qui est la liberté. En effet, aimer est l'acte le plus libre que l'homme puisse poser. On ne peut pas être obligé d'aimer. Et qu'est-ce que ce serait effectivement que l'amour si on y était contraint en quelque manière que ce soit?
En effet, Dieu est amour, communion de personnes au sein de la Trinité. Telle est son image, Tselem Elohim, qui est d'ailleurs par trois fois répété en l'honneur du Dieu un et trine. Quant à sa ressemblance, elle consiste dans le don de la liberté, condition nécessaire à l'accomplissement de la vocation, mais par ailleurs c'est un risque absolu. D'où la présence d'un arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, servant de rempart à un arbre qui se trouve au centre du jardin, qui s'appelle l'arbre de vie, qui est la pierre de touche de la mise en œuvre de cette fameuse liberté.
En effet, au centre du jardin d'Éden, il n'y a pas en fait un arbre, comme on le croit communément, mais deux. L'arbre de vie au milieu du jardin, c'est ce qui le caractérise, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, à première vue, comment peut-il y avoir deux arbres pour une seule place? Alors, la tradition juive résout cette épineuse question, tu me l'accorderas, en précisant que l'arbre de vie, dont les fruits confèrent l'immortalité, est bien l'axis mundi du Gan Eden, du jardin d'Éden. Toutefois, pour le protéger de toute convoitise, il était encerclé par l'arbre de la connaissance du bien et du mal, formant comme une haie tout autour pour empêcher, en tendant la main, de toucher directement les arbres, les fruits de l'arbre de vie. Seul, au dire des rabbins, mais ça paraît assez logique, la vigne et le figuier peuvent se prêter à de telles contorsions. Oui, c'est ça, au regard de l'exégèse rabbinique, qui va donc leur prêter ce rôle. La vigne ou le figuier devait être le second arbre.
Donc, pour que l'homme soit vraiment libre, il faut d'ailleurs qu'il puisse exercer un choix, qu'il use de sa liberté. Et donc, d'où le fait que Dieu pose, de prime abord, un interdit. Vous ne mangerez pas de l'arbre. Dieu lui offre ainsi la possibilité, à ses risques et périls, d'obéir ou de désobéir. Donc l'arbre de la connaissance du bien et du mal ne signifie pas qu'Adam auparavant n'avait ni discernement ni conscience morale, animé par le souffle de Dieu et créé à son image et ressemblance, il possède une âme qui lui permet de juger des choses au point de pouvoir les nommer toutes. Donc ce qui est en cause ici, c'est une revendication, laquelle revendiquer une autonomie morale exercée contre Dieu.
Évidemment. En mangeant du fruit défendu, en mangeant de l'arbre plutôt, Adam et Ève affirment qu'ils veulent décider chacun pour soi de ce qui est bien ou mal à leurs yeux, sans aucun compte à rendre à personne. Ainsi, tuer, voler, mentir, prendre la femme de l'autre, porter des faux témoignages, convoiter, etc. Rien n'est mal en soi de ce point de vue-là. C'est toujours une question d'opportunité, une question de point de vue. À chacun sa vérité. Si c'est bien pour moi de prendre la femme de mon voisin, voilà, c'est bien. Notre époque est, j'allais dire, totalement soumise à cette anomie des valeurs qui façonne et qui imprègne toute la société. Les lois récentes, les lois sociétales, hein, par exemple sur le mariage, l'avortement, la PMA, la GPA qui va pas tarder, sont l'illustration de ce que nous venons de dire. Nous sommes donc entrés dans le monde d'après la vérité, où l'homme se sent libre, est libre, se décrète comme tel, de s'inventer sans référence ni à la nature ni au réel.
Alors reprenons le texte biblique. Donc lorsque Dieu prend Adam et qu'il vient de façonner en pétrissant Adama, la glaise rouge à laquelle il insuffle une haleine de vie dans les narines, il le place aussitôt dans le jardin avec mission de le cultiver et de le garder. Avant de lui donner le premier commandement, il lui dit « Tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. »
Alors, regardons de près la chose. En fait, il n'y a personne à côté d'Adam à ce moment-là pour recevoir cet interdit, qui est la pierre angulaire du libre arbitre. Donc, s'y conformer, c'est faire alliance avec Dieu. Le transgresser, c'est rompre avec Dieu. Voilà le sens de cet arbre. Le premier étage de la fusée est ainsi posé. Grâce à l'interdit, Adam est libre, c'est-à-dire qu'il peut manifester son choix, il peut l'assumer. C'est pas une marionnette. Mais la liberté n'est que la ressemblance avec Dieu, son reflet dans la glace. Reste à lui conférer son image, et voici en quoi consiste le deuxième étage de la fusée. Dieu est amour, communion de personnes au sein de la Trinité en conséquence. Dieu fait ce constat. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça veut dire il n'est pas Dieu, parce que Dieu seul est bon. Il n'est pas Dieu que l'homme soit seul. Il faut que je lui fasse une aide qui lui soit assortie. Une aide en face, une aide contre même, littéralement, Ezer Kenegdo en hébreu, cet autre qui va lui permettre de se donner.
Alors pour ce faire, il convient d'abord de creuser en lui le désir de l'autre, justement, afin d'obtenir sa libre adhésion. Et donc le Très-Haut imagine de faire défiler devant Adam tous les animaux, dans le but qu'ils puissent les nommer et qu'ils s'imposent à eux comme leur maître, leur suzerain, et qu'ils prennent conjointement conscience de sa solitude d'homme par rapport à celle des animaux. Cette solitude, elle est ontique, c'est-à-dire qu'elle se rapporte à l'être. Ontique, c'est à partir du grec ontos, que l'homme est créé à l'image et ressemblance de Dieu et qu'il est, on pourrait dire, seul, face au seul avec une majuscule, dans une relation qui engage tout son être. C'est le propre de sa personne. Et donc, ça c'est intéressant parce que même à l'intérieur d'un couple, il y a une dimension inaliénable qui est la solitude de chacun.
Oui.
C'est pour ça qu'il faut toujours se méfier des faux-semblants fusionnels qui pourraient être la panacée du lien amoureux. Pas du tout. C'est d'abord deux solitudes qui vont se retrouver.
Toutefois, Étienne, dans la création, Adam a vu que chacun avait sa chacune, sauf lui. Et en fait, il s'en attriste. Et Dieu, quand il voit qu'il est déçu, qu'il fait grise mine, eh bien Dieu se frotte les mains en réalité. Pourquoi ? Parce qu'il voit bien qu'à ce moment-là, Adam est prêt à accueillir Ève en ressentant le manque. Déjà, en fait, il fait une place dans son cœur à celle qui doit venir. Dieu fait alors tomber sur lui une torpeur divine. C'est la première anesthésie générale de l'histoire humaine. Et il incise sa chair, précisément au niveau du cœur, pour prélever la côte qui le protège. À partir de quoi il va façonner, il façonne. En hébreu, c'est « il bâtit une femme ». Isha, pour l'amener à l'homme, Ish, et qu'ils soient ensemble, Adam, Adam signifiant le glaiseux, celui qui a été tiré de la poussière.
Au moment où nous évoquons la création de la femme, s'achève cette première émission que l'on peut retrouver dans ton livre « Les couples phares de la Bible » paru chez Salvator. Vous allez écouter une chanson qui s'appelle « L'Annonciation » que vous pouvez tout à fait retrouver, réécouter sur ma chaîne YouTube Étienne Tarnot et sur toutes les plateformes de streaming et de téléchargement. Par ailleurs, nous animons des contes, concerts bibliques, conférences dans toute la francophonie. Si vous souhaitez nous faire venir dans votre école, collège, lycée, paroisse, groupe biblique, vous pouvez nous écrire au mail de l'émission biblepasapa@gmail.com. Très bonne semaine à toi, Jocelyne.
Très bonne semaine, Étienne. Et surtout, très bonne semaine à tous.
La terre était vide et vague, et Dieu dit que lumière soit. Aussitôt lumière fut, et elle fit toute sa joie. En six jours il façonna un jardin d'éternité, paris de mille et une beautés, le paradis il créa. Un peu de glaise humide pour pétrir l'homme à son image. Le sixième jour, il le fit roi de son jardin. En mon nom, je t'ai fait, toi. gardien de ma création. Prends soin de l'eau, de la terre et du vent. Tu es le gardien du futur de tes enfants. C'est toi le gardien du futur de mon jardin. Si tout devient vide et vague dans ce tohu-bohu, dis-moi donc où iras-tu. Épines et chardons pousseront en étouffant tes enfants. Je t'ai donné les clés du paradis, de mon jardin. En mon nom, je t'ai fait, toi, Adam, le gardien de ma création. Prends soin de l'eau, de la terre et du vent. Tu es le gardien du futur de tes enfants. C'est toi le gardien du futur de mon jardin. En mon nom, je t'ai fait, toi, Adam, le gardien de ma création. Prends soin de l'eau, de la terre et du vent. Tu es le gardien.